TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Nous voici de retour sur les ondes du web pour échanger aujourd'hui à propos d'un sujet qui nous tenait à cœur depuis quelques temps. Il s'agit des sources générateurs de sources en bon français. On va en parler en particulier avec le langage C#. Donc pour nous introduire ce sujet et pour initier un petit peu la discussion, je vais laisser Thomas nous présenter tout ça.
Yes, merci Mathieu. Du coup, pour compléter, générateur de code source en bon français. Avant de parler directement du source générateur, je vais d'abord vous parler de la problématique qu'on rencontre et du coup, pourquoi c'est venu. Et du coup, je vais prendre comme exemple le développement d'une API. En général, lorsqu'on développe une API, on a besoin de remonter des informations à son appelant. Quand on va constituer son projet, on va le découper en plusieurs couches. Et du coup, on va se retrouver avec la couche côté base de données, on va avoir nos entités qui représentent les différentes tables dont on dispose. Et jusqu'à la couche présentation, on va avoir nos DTO, donc ce qu'on va retourner à notre appelant. Pour passer d'une entité à un DTO, en général, on va écrire du code qui va permettre de mapper une entité vers une autre. Pour pouvoir faire ça, on a plusieurs possibilités. Donc la première, c'est écrire soi-même le mapping. On va prendre chacun des champs, chacune des propriétés, du coup mapper une à une. Bon, c'est un peu long, c'est fastidieux. Il faut tester qu'on ne s'est pas trompé sur les différents noms, qu'on met bien les bonnes propriétés au bon endroit. Ça, c'est la solution 1. La solution 2, c'est d'utiliser une bibliothèque type Automapper. Et du coup, c'est Automapper qui va se charger de passer du type 1 vers le type 2. Pour ce faire, on va référencer, pour Automapper, on va enregistrer dans la configuration, voilà, tu peux passer de ce type-là vers ce type-là. Et Automapper va se charger lui-même de mapper l'objet. Automapper, comment il fonctionne? Il veut utiliser la réflexion. Et du coup, on va parcourir les différentes propriétés de votre objet. Donc ça va se passer au runtime. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir définir, OK, cette propriété va dans celle-ci, etc. La problématique de la réflexion, c'est que c'est coûteux en temps. Ça s'exécute au runtime et du coup, c'est pas directement lié à votre code métier. Votre code métier, vous allez faire différents traitements. Et en plus de ce traitement, vous allez avoir un temps de traitement qui va être dédié uniquement pour pouvoir passer d'un type vers un autre. Hormis cette problématique, c'est très pratique, parce que ça nous évite d'écrire nous-mêmes le code de mapping. Et du coup, vient la troisième solution. La troisième solution, du coup, c'est à base de source générateur. On a la librairie Mapperly qui le propose. Mapperly va faire la même chose qu'Automapper, sauf qu'à la place d'utiliser la réflexion pour pouvoir passer d'un type vers un autre, lui, il va générer du code source au moment du build de votre projet. Ça veut dire qu'au moment où vous allez builder votre projet, donc vous aurez créé une classe de mapping, vous lui aurez mis les attributs qui vont bien, qui sont les attributs de Mapperly. Et du coup, lui, au moment du build, va analyser votre classe, va analyser les méthodes que vous aurez mis pour passer d'un type vers un autre type. Et du coup, il va générer l'intégralité du code, comme si vous l'aviez fait manuellement, pour passer d'un type vers un autre. Si on compare par rapport à Automapper, on n'a plus ce temps nécessaire pour la réflexion, pour déterminer comment on passe d'un type à un autre. On va dire qu'on combine le meilleur des trois mondes, même si on perd un tout petit peu en souplesse par rapport à un mapping manuel. L'autre avantage, c'est que le code généré ne va pas être commit dans votre repository. Ça, en fait, il sera uniquement présent au moment où vous allez builder. Donc là, tout ce qui est aussi pour couverture de code source avec Sonar, en fait, ça n'apparaîtra pas dedans. Vous n'aurez pas besoin d'écrire de test pour valider directement que votre mapping n'est pas bon. Enfin, est bon ou n'est pas bon. Et du coup, pour résumer, donc, les sources générateurs, c'est un outil de compilation qui permet de générer du code C# automatiquement lors de la compilation. Ils peuvent lire et analyser le code existant dans un projet pour produire du code additionnel à compiler avec le reste du projet. Et cela permet aux développeurs de générer des modèles de code répétitifs sans avoir à écrire manuellement le même code encore et encore. Ça, c'est ce que les développeurs n'aiment pas du tout, c'est recommencer la même chose. Et les générateurs de code source sont intégrés dans le processus de compilation sans modifier le code source original, ce qui facilite la maintenance et la mise à jour du code généré. Voilà, pour résumer en gros ce que c'est. Et du coup, est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà utilisé voilà, des interrogations ou autre?
Moi, je ne m'en suis pas servi directement encore, même si, au final, quand tu te renseignes un petit peu sur les librairies ou les packages tiers qui utilisent ce mécanisme-là, bah, en réalité, il y en a pas mal qui se basent sur la génération de code source. Donc, finalement, parfois, tu l'utilises de manière détournée, enfin, en tout cas, sans t'en rendre compte. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je voulais revenir un petit peu sur un truc là que tu parlais. Je me posais une question pour laquelle je n'ai pas forcément la réponse. C'était quand tu écris du code en général, tu vas écrire des tests unitaires associés, enfin des tests associés, qui vont te permettre de valider que ton code il fait bien ce à quoi tu t'attends et pouvoir éviter les régressions au fur et à mesure de l'évolution de ton application. Quand tu fais de la génération de code source, finalement, comment est-ce que tu peux tester que ton générateur de code source, il génère bien ce que tu veux, et que cette génération-là, elle est consistante au fil du temps, et que le code généré est convenable? Je me projette pas trop sur comment est-ce qu'on teste ce type de ce nouveau type de façon d'écrire ou de générer du code. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'expérimenter un petit peu ça.
Du coup, oui, je l'ai expérimenté. Tu vas pas tester directement le code source qui est généré par du coup le source generator, mais tu vas tester un peu au niveau au-dessus. Donc tu vas appeler la fonctionnalité qui utilise le code, qui utilise une partie du source generator, et tu vas vérifier que le résultat attendu correspond. Donc en effet, tu testes pas directement. Mais étant donné que c'est pas un test unitaire, mais plus un test fonctionnel du niveau au-dessus, c'est comme ça que tu vas pouvoir valider que tout fonctionne, on va dire, correctement.
Ouais, donc en réalité, tu écris tes tests comme d'habitude, j'ai envie de dire, et le code source généré vient se mettre à l'intérieur comme si c'était toi qui l'avais écrit, et donc finalement, c'est transparent en réalité. Les habitudes ne changent pas.
C'est ça. Et tu as même la possibilité de venir voir en fait le code qui a été généré dans ton projet, dans ton dossier OBJ, la version du runtime. Tu auras accès directement ici au code qui a été généré par le source générateur, par l'un ou plusieurs source générateurs. Et moi, je suis sûr que vous l'utilisez aujourd'hui, mais vous ne le savez pas. Notamment sur la dernière version de .NET, donc en .NET 8, mais je crois que ça a été déjà intégré en .NET 7, avec une librairie que tout le monde utilise, qui est du coup systemtext.json. Microsoft a commencé à intégrer la partie source generator pour tout ce qui est sérialisation, désérialisation. Parce que là aussi, on a encore quelque chose qui consomme énormément de temps, pouvoir sérialiser, désérialiser, analyser les types, pouvoir passer de l'un à l'autre. Et du coup, ils proposent des API sur systemtext.json pour pouvoir utiliser le source generator pour transcrire et expliquer comment on passe d'un type vers un autre.
C'est vrai que, alors je savais pas forcément pour SystemTextJSON, mais en effet c'est enfin la génération de code pour lire et générer des fichiers de données, que ce soit du JSON, du protobuf pour gRPC, ce genre de choses, c'est vraiment c'est un use case super intéressant parce que ce code-là généralement il a assez peu de valeur ajoutée, il est assez casse-pied, rébarbatif à écrire, donc ça c'est un excellent candidat pour les générateurs de code source. D'ailleurs, ça me fait penser, pour faire un bref retour dans le passé là-dessus, là, si je ne me trompe pas, là, toutes ces choses-là sont apparues un petit peu avec Roselyne, là, donc .NET 5, C Sharp 8, 9, on va dire à peu près, peut-être un poil avant par rapport à ce que tu disais. Ce qui est rigolo, c'est que Microsoft, ils avaient déjà fait des excursions dans le domaine de la génération de code source avant, dès le .NET Framework qu'on va appeler Legacy maintenant, avec tout ce qui tourne autour des... Alors, attention, hein, c'est bien moins puissant que ce dont on parle aujourd'hui, mais n'empêche que ça existait déjà, avec les code snippets et les templates T4, qui étaient déjà finalement des systèmes de génération de code source en réalité. Moi, le template T4, je m'en étais énormément servi pour tout ce qui tourne autour de la manipulation XSLT, et avec Entity Framework, à l'époque, on pouvait générer ces différentes classes de modèles ou ces patterns repository avec ça. Bon, c'était pas toujours super fun, mais ça fonctionnait et ça évitait d'écrire du code, c'était assez rigolo. Donc là, ils l'ont pas mal remis au goût du jour et ils l'ont clairement amélioré, ça, y a aucun doute. Mais c'est pas un truc si récent que ça finalement quand on réfléchit bien. C'est marrant.
C'est assez intéressant. Je me demandais, en fait, dans la mise en œuvre, comment tu fais? Parce que quand tu as une classe, par exemple, je sais que nous, ce qu'on utilisait souvent, c'était utiliser des attributs. Au-dessus d'une propriété ou d'une classe, on met entre crochets un mot qui va être un attribut qu'on a défini pour ajouter des propriétés à une classe ou à un objet. Un attribut ou un objet. Et ça, c'était déjà assez puissant parce qu'en fait, par exemple, on définissait des services et on faisait l'injection de dépendance juste en utilisant ces attributs pour pouvoir les injecter dans le container de services, en fait, de .NET, le iService Provider. Et en fait, les sources générateurs, tu peux faire un peu n'importe quoi. Je veux dire, quand j'ai regardé des vidéos où ils utilisent ça justement, mais je me demande s'il y a d'autres techniques que se baser sur des attributs pour générer du code.
Je dirais que la méthode la plus simple en effet, c'est de décorer ta classe en mettant un attribut qui t'est propre à ton source générateur, pour éviter déjà les collisions et puis pour pouvoir récupérer, enfin savoir exactement ce qu'il faut faire rapidement. Pour donner le détail, enfin pour donner du détail, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En gros, tu veux créer un source générateur, tu vas créer ton projet. Avant, tu avais une interface qui s'appelait eSourceGenerator. Donc, tu crées ton projet, tu crées une classe qui implémente eSourceGenerator. Aujourd'hui, on est passé de eSourceGenerator et Incremental Generator. Ils ont juste changé la façon de faire. Mais le fait, du coup, d'implémenter cette interface, tu vas avoir accès à. Tu vas devoir implémenter une ou deux méthodes. Et ces méthodes, ça va être ton point d'entrée quand tu vas hook le process de build. Ce qui va se passer du coup, c'est que tu vas pouvoir analyser le code source. Donc, tu vas avoir accès aux classes, aux interfaces, aux attributs, tout ça via l'API Roslyn. Et ça va te fournir une représentation riche et détaillée du code source sous forme d'un arbre syntaxique. Et à partir de là, tu vas pouvoir boucler dessus et rechercher, du coup, dans le cas d'attributs, les attributs qui t'intéressent. Ok, là, dans cette classe, à cet attribut. Et du coup, tu auras accès à tout l'arbre syntaxique de la classe. Et tu vas pouvoir analyser toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir, dans un premier temps, donc construire ton modèle pour créer ce que tu as besoin pour ton source générateur. Tu vas pouvoir aussi générer des erreurs qui vont apparaître directement dans ton IDE, comme enfin, ce que t'envoie Visual Studio. Et la dernière partie, bah, tu vas pouvoir émettre du code qui sera stocké donc, dans l'assembly.
Et du coup, j'ai quand même une question, c'est que quand tu génères ce code, il rajoute pas du code dans la classe que tu as écrite où tu as rajouté des attributs, ça génère du code dans un autre fichier. Et est-ce que il faut prévoir une organisation du code que tu génères? Parce que quand on crée un projet, par exemple, on organise ses fichiers avec des dossiers, etc. Est-ce qu'il y a une manière d'organiser le code généré?
Pas forcément. En fait, tu vas lui mettre le même namespace. Par exemple, si c'est une cl... En général, ce qui se passe, c'est que ta classe, tu la mets partielle. Et du coup, ton code généré, il reprend le même nom de classe en mode partiel. Il reprend le même namespace. Et comme ça, le compilateur, il va s'y retrouver. Il va voir, OK, il y a cette méthode qui existe et elle a été implémentée dans le code généré.
Mais je veux dire, une fois que le code est généré, par exemple, quand ton build a été exécuté, quand tu vas voir dans ton build, il met tous les fichiers à plat ou pas?
Ça, c'est toi qui choisis.
Donc tu dois réfléchir à l'architecture de ton projet. Donc c'est quand même assez bizarre parce que tu dois imaginer les dossiers qui n'existent pas sur ton PC. Bon, enfin, j'imagine que tu builds pour voir ce que ça donne, hein, mais c'est une manière particulière de voir les choses.
Mais au final, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Tu peux créer des dossiers si tu veux avoir une certaine structure. Mais tu pourrais très bien, tu vois, où tu as tous tes DLL, et bah, tu pourrais très bien avoir ici tous tes fichiers générés. Sans les ordonner, les classer, etc. C'est pas très grave, le développeur, il a pas besoin de les maintenir. Même si ce code, tu vois, il est pas bien organisé, ça pose pas de problème, parce qu'il y a personne qui va venir voir de façon régulière dedans.
Si tu as un vrai bug à débugger en prod, ça peut peut-être arriver. Tu peux faire je pense, tu peux faire du attach to debug. Tu peux t'attacher au processus et aller débugger les fichiers, j'imagine.
Juste avant de parler du débugage, là, je voulais revenir sur le fait que les développeurs n'ont pas à se soucier des fichiers générés. Sur le web, sur la communauté, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ça. Il y en a certains qui disaient que c'était intéressant parfois de générer tes classes, enfin tes fichiers de code dans un dossier dédié et pas dans OBJ comme par défaut là, voire éventuellement de ne pas les ignorer dans ton système de gestion de code source pour permettre de les relire côté code review par exemple. Même si il est vrai que c'est du code généré, que t'as pas la main directement dessus, il y en a certains qui disaient que c'était quand même intéressant de les montrer pour les lire et pour les valider. Je sais pas ce que vous en pensez de ça.
Bah justement, ouais, j'y pensais à cause de Sonar par exemple, des outils de comme Snyk qui vont faire des analyses. Parce que le code que tu génères, ça veut pas dire qu'il est bon. Hein. Et je pense que tu peux même améliorer tes sources générateurs avec ce genre d'outils, quoi. Mais c'est pour ça que moi j'aurais tendance à générer avec des fichiers, projets test, à générer du code source que je pousserais.
Ouais, après je dirais ça dépend de la philosophie. Si ton source générateur c'est un mapper, est-ce que tu as vraiment besoin de le remonter? Je sais pas. Après si tu as un impact métier plus important, ça peut être intéressant. Si je prends l'exemple du interface, enfin ouais, spec first, je ne sais plus exactement le terme, mais si on prend la partie spec first, du coup, on dit tu veux développer ton API, ton fichier de spec, donc Open API, c'est ta base, et tu ne veux pas, du coup, committer tout ce qui est généré à partir de ton fichier Open API, parce que si ton fichier Open API change, tu veux que ça se renouvelle tout seul et tu ne veux avoir aucune trace de ce qui était, de la représentation de tes classes. Dans ce cas-là, du coup, tu as intérêt à ne pas le committer et du coup, ne pas avoir de code coverage dessus. Donc, je pense que ça se vaut des deux côtés, ça se réfléchit. Et pour en revenir pour pouvoir débugger, même si le code il est généré, tu as quand même accès. Il n'est pas encapsulé. Du coup, tu peux voir ce qui se passe, tu peux t'attacher, tu peux mettre un point d'arrêt et regarder étape par étape.
Et du coup, tu dis il n'est pas encapsulé, mais c'est-à-dire que quand tu déploies ta solution, le code source, il est lisible. Ou faut rajouter une étape de build pour faire des DLL?
Alors, le code généré, il est autant lisible que ton code à toi.
Ouais, mais il y a une autre étape. Je veux dire, il y a une autre étape derrière pour le transformer en DLL ou quand tu vas livrer tes solutions en prod, il va y avoir des fichiers .cs.
Non, non, non. Quand tu... Ouais, tout est DLL. En fait, les étapes, c'est que tu as ton compilateur qui se lance, tu as ton générateur de code source qui vient stopper le process, enfin, qui vient s'intégrer dans le process de compilation. Il vient analyser ton code source, il vient générer du nouveau code, et ce nouveau code, il est ajouté en tant qu'entrée à ton process de compilation, et c'est comme si c'était toi qui l'avais écrit finalement, sauf que c'est pas toi qui l'as écrit, et à la fin, le résultat est strictement identique que t'es un source générateur entre les deux ou pas.
Mais c'est-à-dire que quand tu fais un publish du projet, il te met pas le code source dans le résultat, il te le met à un autre endroit?
Il te met jamais le code source dans ton publish?
Non, mais je veux dire, le code généré, il se retrouve où? Dans quel, à quel endroit, en fait, c'est ça que je me posais comme question.
Ah, pour moi, il va se retrouver dans... Est-ce qu'il est dans une DLL dédiée ou est-ce qu'il est dans les mêmes DLL que les autres? Je ne saurais pas dire ça.
pour faire un peu de debug aussi, parce qu'on utilise une librairie qui fait du source générateur, là, c'est dans la DLL dédiée, dans la DLL qui est fournie par le Nugget, en fait, quoi. J'ai fait beaucoup de décompilations pour faire du debug, justement, pour faire du retro engineering, pour voir ce qui était généré quand c'est déployé sur les serveurs. Et en effet, c'est vraiment dans une DLL à part où tu vois tout le code apparaître, quoi.
Et t'es obligé de décompiler.
Ouais, mais comme ta propre DLL à toi, d'ailleurs, si tu la déploies, t'es obligé de la décompiler pour voir ce qu'il y a dedans, quoi.
Ouais, mais le code source généré, c'est ça que je me pose comme question. Il se retrouve dans la solution que tu développes, du coup? Mais tu l'ignores avec le gitignore, c'est ça que tu disais tout à l'heure.
C'est ça, parce que je crois que c'est par défaut, c'est dans le OBJ, si je dis pas de bêtises, mais Thomas veut peut-être mieux s'y connaître, mais
c'est
par
dans
défaut,
le OBJ. Ok, ouais, non, mais c'est juste pour situer. Ouais.
C'est ça. Après, le code que tu... Du coup, pour en revenir, le code que tu génères, en général, tu lui mets des attributs, comme quoi c'est du code auto-généré, pour faire en sorte qu'il soit ignoré pour différents process, que ce soit des tests, etc., pour dire bah celui-là ne t'en occupe pas, etc. Tu peux aussi l'utiliser pour dire faut pas que tu le remontes dans ton git. Mais en effet, quand tu builds, t'as ta DLL qui est intégrée dedans. Et par contre, faut pas oublier les symboles si tu veux pouvoir du coup avoir accès au réel code, quoi. Sinon, tu pourras pas la décompiler.
Et j'ai regardé un petit peu cette semaine, justement, c'est les fameux source générateurs là. comme on est capable de générer du code à la compilation, on est aussi capable d'analyser du code à la compilation. Et là aussi, c'est intéressant parce que je vois certaines librairies qui, de plus en plus, vont faire des vérifications, des implémentations du bon usage de leur librairie. Je ne sais pas si c'est très logique ce que je viens de dire, mais typiquement, le pattern CQRS, qui est du command query que vous connaissez pour la plupart, Mediator, utilise du source générateur pour vérifier qu'il n'y a bien qu'une seule et même implémentation de son e-message handler, va vérifier qu'il n'y en a pas plusieurs, va vérifier que chaque DTO est bien implémenté dans ce e-message handler correctement. Et moi, je le vois aussi dans une autre manière. C'est Julien, je crois, qui nous avait présenté, ou toi, Thomas, je ne sais plus, dernièrement, Arc Test Unit, pour faire les tests d'architecture. On pourrait très bien s'imaginer un analyseur comme ça qui va vérifier les bonnes pratiques décidées par une entreprise ou autre quoi, pour lever des warnings ou des erreurs directement dès la compilation. Quoi. C'est un autre usage pour moi aussi qui va arriver aussi là-dessus.
Ouais, et c'est carrément intéressant parce qu'au-delà de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qui était plutôt la réduction du boilerplate ou la simplification de la vie du dev, t'as aussi un autre pan qui est l'augmentation de la consistance de ton code et la robustesse de ta solution avec, comme tu disais, analyser le code pour vérifier qu'il respecte bien tes patterns, tes bonnes pratiques et tout ce qui suit. Et aussi l'instrumenter automatiquement avec du log, avec de la gestion d'erreurs ou du monitoring de performance. Je suis tombé sur un snippet tout à l'heure super intéressant qui permettait avec un simple attribut de venir ajouter un système de stopwatch autour de ton appel de méthode et du coup de mesurer le temps d'exécution de chacune de tes fonctions à l'intérieur d'une classe, ce qui te permet de remonter des métriques et derrière d'avoir du monitoring, de l'observabilité sur ton code et tout ça sans toucher à ton code quasiment, donc c'est quand même vachement intéressant. Et ce pont-là, c'est vrai qu'il est assez intéressant. Faudra voir comment ça évolue, mais il y a des trucs sympas à faire. Très sympa.
En effet, ça fait partie des nombreux avantages. Imaginons que tu sois une grande entreprise avec énormément de développeurs qui travaillent tous sur la même technologie. Peu importe dans les services où ils sont répartis, ils doivent tous développer des API. Ils doivent tous communiquer avec, par exemple, des services de messaging type Kafka, Rabbit, etc. Et le fait d'avoir tu vois, une pré-solution packagée qui te permette de faire une abstraction de toute la couche transport et d'arriver directement dans ton code métier, c'est énormément de temps de gagner. Ça permet aux devs de se concentrer uniquement sur ce qui a de la plus-value pour la partie business.
Ouais, justement, je me disais, quand tu as des petites équipes, c'est peut-être pas intéressant de mettre ça en place parce que tu rajoutes quand même une surcouche au code que tu génères. C'est-à-dire, quand tu as un problème simple, faire une API pour appeler une base de données et que c'est un petit projet qui dure 2 mois et que tu as un dev dessus, l'intérêt est limité. Mais si jamais tu veux faire de la programmation de type industriel, industrialiser les choses, et que tu as des patterns que tu veux appliquer à tous tes projets standardisés, qu'ils respectent tous les mêmes règles, c'est clairement un avantage en fait de pouvoir créer quasiment un framework à toi. Et au minimum, de tout ce que disait Mathieu, de connaître cette solution pour comprendre les outils qu'on va utiliser. Parce que juste avec une option de compilation, pouvoir rajouter des métriques partout sur ton application, c'est quand même super pratique, quoi.
Et j'ai le cas réel, tu veux implémenter l'observabilité sur ton application. Pour pouvoir remonter toutes ces métriques, toutes ces traces, tous ces logs, t'es dans une grande entreprise, t'as du coup un système qui existe déjà. On prendrait énormément de temps si tous les développeurs, à chaque fois qu'ils commencent un nouveau projet, devaient du coup intégrer et du coup développer cette couche d'observabilité. Si t'avais un source générateur qui te permet, ok, je start-up mon projet, je fais add observabilité et du coup tout de suite toutes les métriques, toutes les traces remontent de façon magique, c'est quelque chose qui permettrait de gagner énormément de temps. Tu peux penser la même chose sur par exemple l'authentification. Si tu as un système d'authent qui est propriétaire à l'entreprise, le redévelopper à chaque fois. Déjà, l'authent, c'est un peu chiant comme partie. Mais en plus, le redévelopper, tu perds énormément de temps. Si tu avais directement un add authentication de standard de ton entreprise, tu gagnerais énormément de temps.
Et moi, pour l'avoir utilisé depuis un an là, avec un projet là, qu'on a en entreprise, je confirme que ça fait gagner énormément de temps hein, là-dessus. C'est hyper pratique, hyper cool. La complexité, c'est en effet le code qui est généré. Des fois, il y a des petits soucis, mais c'est normal parce que c'est un tout nouveau framework qui était en cours de développement. Mais le gain de temps, il est quand même, il est mesurable parce qu'il y a plein de choses qu'on a pas à faire. Tout ce qui est gestion d'API, gestion d'envoi de messages, de réception de messages. Et c'est vraiment un sacré gain de temps. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec tous ces sources générateurs-là.
Le seul souci que je pourrais noter, c'est un peu de frustration pour les développeurs sur le fait que ils vont perdre la main sur une des parties. Vu que c'est géré tout seul par son générateur, il y a énormément d'avantages sur tout ce qui est répétitif, etc. Mais on a une couche d'abstraction qui peut venir, enfin qui va venir, qui vient, et du coup qui peut frustrer certaines personnes qui ont l'habitude de dire « moi je veux tout gérer, je veux pas que j'ai une surcouche, un framework qui vienne s'intégrer et qui s'occupe de choses à ma place que je ne maîtrise pas ».
Je me posais la question, vous savez si Kyoto l'utilise ?
Aucune idée, mais je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Faut regarder, mais je suis pas sûr. Et pour revenir à ce que tu disais, Thomas, pour en effet qu'on perd la main, etc. Ça, c'est une réalité. Maintenant que le bénéfice, je trouve que comme il y a beaucoup de bénéfices, la plupart du temps, c'est cool. Le seul truc qui m'a manqué, moi, là, j'ai pas cherché. Peut-être que c'est possible, c'est de débugger le source, le code généré. J'ai jamais réussi à mettre des points d'arrêt dans le code généré. Et ça, c'est ce qui m'a posé pas mal de problèmes des fois, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je n'ai pas non plus cherché extrêmement longtemps. Je ne sais pas si c'est possible, pas possible d'ailleurs. Je ne sais même pas si Thomas, toi, tu es au courant ou les autres, vous êtes au courant sur ça. Quoi.
Tu as la main normalement pour pouvoir débugger. Alors, il faut savoir à quel moment il est appelé. Mais du coup, si tu mets un point d'arrêt juste avant, tu peux se faire un step into et du coup avoir accès au code. Quoi.
Alors, je sais que de manière classique, il faut que tu aies les points PDB qui soient déployés pour pouvoir avoir des infos de compilation. Si tu as juste déployé les DLN, tu ne peux pas le faire. Donc peut-être qu'il faut que tu compiles avec tes sources générateurs pour avoir la publication du point PDB de tes sources générateurs pour pouvoir le faire.
Bon, en tout cas, on note qu'il y a un véritable engouement autour de tout ça. On s'en est déjà servi avec succès d'ailleurs au sein de plusieurs projets. Je pense que dans l'avenir, on va continuer à s'en servir. On l'a vu, on l'a identifié, il y a pas mal de use cases assez intéressants et qui permettent de gagner sur plusieurs aspects. On a parlé de gain de temps pour le développeur, amélioration de performance, amélioration de la consistance du code. Donc tout ça est super intéressant. C'est une belle découverte et belle technologie. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de regarder, on n'en a pas du tout parlé, ce qui existe éventuellement dans d'autres langages. On a beaucoup parlé C Sharp, parce que c'est un langage formidable, mais il y a peut-être des alternatives dans d'autres technologies. J'avoue que je ne me suis pas du tout renseigné, donc ça vaudra le coup d'y jeter un œil. En tout cas, merci chers auditeurs. Vous l'avez noté, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. On va plutôt passer sur un rythme sur 15 jours, un épisode tous les 15 jours, donc à peu près 2 épisodes par mois. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, nous, de respirer un petit peu. Le rythme hebdomadaire est quand même assez dense. En fonction de l'actualité, c'est pas toujours évident. Donc j'espère que ce nouveau format vous conviendra aussi. Donc on se retrouve le lundi à 8h30, 9h, comme d'habitude. Mais cette fois, un lundi sur deux. Alors, en tout cas, merci à tous et on vous souhaite une bonne semaine.